Voilà, bonsoir à tous. Donc, mardi 20 mai 2025, dernière séance de l'année qui sera consacrée à une réflexion sur la liberté de penser. Alors, d'ores et déjà, je peux vous indiquer le plan général de notre séance. Après avoir distingué la liberté de penser à proprement parler, de la liberté de son expression, de la liberté d'expression, eh bien, nous montrerons que cette dernière n'implique pas que ceux qui bénéficient du droit d'exprimer leurs pensées manifestent une authentique liberté de penser. La liberté d'expression, c'est la liberté d'exprimer des pensées dont une bonne part peuvent être des préjugés. Et quand nous le verrons dans le livre 12 de l'Esprit des lois, je vais vous le refourguer un peu, Montesquieu s'interroge sur la liberté d'expression et ses limites, eh bien il ne se demande pas si les citoyens sont vraiment les auteurs des pensées qu'ils expriment, ou si, au contraire, elles sont le résultat d'un conditionnement social et culturel. Une question qui ne se pose pas, si vous voulez. Il laisse ce problème de côté pour aborder la question des limites. Des limites de l'expression. Or, notre problème à nous, ce soir, ce sera celui de savoir à quelles conditions la pensée d'un homme est vraiment libre. Et si cette pensée est captive de préjugés, si elle peut se libérer de ses préjugés, et de quelle manière? Et dans quelle mesure la liberté d'expression peut contribuer à cette libération? Alors, cette réflexion nous conduira à lire attentivement un célèbre article du philosophe Emmanuel Kant, paru en 1784, dans une revue berlinoise, le Monatsschrift, enfin, je ne sais plus le nom allemand exact, en tout cas, le titre de cet article, c'est « Was ist Aufklärung ?»« Qu'est-ce que les Lumières ?» Et dans cet article très célèbre, très très célèbre, eh bien Kant se demande comment l'homme peut émanciper sa pensée pour accéder aux Lumières. Pour le dire autrement, comment l'humanité peut-elle sortir de l'obscurité des préjugés pour accéder à la lumière de la raison. La raison étant comparée à une lumière qui permet effectivement d'éclairer. Étant entendu qu'une pensée éclairée, c'est une pensée libre. Donc, comme je vous le disais, la liberté de penser s'entend en deux sens. Elle est d'abord la liberté intérieure que j'ai de penser, que personne ne peut m'enlever, et qui peut s'exercer même dans le cas où son expression est entravée. Si on peut me contraindre par la force ou par le chantage, si on peut me contraindre d'exprimer une opinion à laquelle je n'adhère pas, il paraît impossible, en revanche, de me contraindre de l'adopter si je ne la partage pas. Il m'apparaît impossible de me contraindre de changer d'avis. Donc, vous voyez que, de ce point de vue, la pensée apparaît comme un sanctuaire inviolable, inaccessible au pouvoir qui voudrait en quelque sorte la contraindre, Elle est comme le dernier rempart dont l'homme dispose lorsqu'il se trouve opprimé sur tous les plans. Mais la liberté de penser s'entend aussi comme le fait de pouvoir exprimer sa pensée et la communiquer aux autres. Et exprimer sa pensée, cela signifie la rendre sensible par des signes. Et pour l'essentiel, ces signes sont des paroles ou des écrits. Donc vous voyez qu'ici, la liberté de penser, considérée dans ce sens, hein, c'est tout simplement la liberté d'expression. Mais contrairement à la liberté intérieure de penser, qui ne dépend que de moi, la liberté d'expression dépend de conditions extérieures, qui sont essentiellement des conditions politiques et juridiques. La liberté d'expression est en effet le droit de dire ce que les lois permettent, dans le cadre de ce que Montesquieu appelle un gouvernement modéré, ce que nous appelons, nous, un état de droit. Donc, elle est le droit d'exprimer publiquement une opinion sans avoir à craindre la violence de ceux qui ne la partagent pas, sans avoir à craindre la sanction du pouvoir à qui elle ne plaît pas. Et c'est en ce sens que l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 stipule, je cite, que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Vous connaissez cet article ? Eh bien, dans le cadre général de sa réflexion sur la liberté du citoyen, qui aborde les lois pénales, au livre 12 de l'Esprit des lois, Montesquieu consacre quelques chapitres à la liberté d'expression, particulièrement les chapitres 12 et 13, qui traitent, pour le premier, de ce que Montesquieu appelle les paroles indiscrètes, c'est-à-dire les paroles imprudentes, et puis le chapitre 13 traite des écrits. Alors, faute de temps, je ne vous en ai pas parlé lors de la dernière séance sur Montesquieu, consacrée à la lecture du livre 12. Or, ces chapitres méritent tout de même un peu notre attention. Or, évidemment, j'irai ici à l'essentiel. Alors, qu'est-ce que montre Montesquieu ? Qu'en règle générale, seules les actions extérieures, parce qu'elles sont données dans l'expérience, parce que leur existence peut être constatée par plusieurs personnes de façon incontestable, seules ces actions sont incriminables. Et au chapitre 11, Montesquieu écrit la formule suivante, je cite, « Les lois ne se chargent de punir que les actions extérieures ». Et c'est pourquoi il montre aussi qu'il est tout à fait inique de condamner des pensées, comme il est également inique de condamner des paroles lorsqu'elles sont des signes équivoques dont le sens est matière à interprétation. Par exemple, un cas qu'il soulève. Est-ce qu'on peut condamner un homme qui aurait proféré des paroles jugées offensantes à l'égard du roi ? Est-ce qu'il est possible de le condamner pour crime de lèse-majesté, qui est un crime considéré comme très grave ? Réponse de Montesquieu. Vous avez le texte, page 3. En haut, à gauche. Rien, chapitre 12, des paroles indiscrètes. Rien ne rend encore le crime de lèse-majesté plus arbitraire que quand des paroles indiscrètes, c'est-à-dire des paroles maladroites, imprudentes, en deviennent la matière. Les discours sont si sujets à interprétation, il y a tant de différences entre l'indiscrétion et la malice c'est l'intention de nuire, et il y en a si peu dans les expressions qu'elles emploient, que la loi ne peut guère soumettre les paroles à une peine capitale, à moins qu'elle ne déclare expressément celle qu'elle y soumet. Alors, est-ce qu'on peut déterminer en toute certitude qu'une parole apparemment irrespectueuse à l'endroit du souverain, est-ce qu'on peut déterminer qu'elle a été proférée par malice? Est-ce qu'on peut dire que cet homme s'est exprimé pour nuire, dans l'intention de nuire? Réponse. Dans la mesure où il est difficile d'établir qu'il y a vraiment intention de nuire, il faut éviter de punir de telles paroles par une punition extrêmement grave, comme la peine capitale. Les paroles ne peuvent constituer un crime, écrit Montesquieu plus loin, que si elles sont jointes à une action criminelle et prennent la nature de cette action. Alors, vous regardez le dernier paragraphe du texte, là, c'est là que se trouve ce que je viens de vous lire. C'est la deuxième phrase. Vous voyez, les paroles qui sont jointes à une action prennent la nature de cette action. Et il donne tout de suite un exemple qui vous permettra de comprendre ce qu'il dit. Ainsi, un homme qui va dans la place publique exhorter les sujets à la révolte devient coupable de lèse-majesté, parce que les paroles sont jointes à l'action et y participent. Ce ne sont point les paroles que l'on punit, mais une action commise dans laquelle on emploie les paroles. Vous voyez que ici, une parole prend la nature d'une action criminelle en appelant à cette action. Quand elle a ce qu'on appelle une fonction performative. Une parole a une fonction performative quand elle produit une action. Bon. Quand elle incite au passage à l'acte. Et dans ce cas, sa signification n'a rien d'équivoque. Car de toute évidence, elle est prononcée pour provoquer cette action. Et ici, c'est une action séditieuse. Et donc, Montesquieu arrive à la conclusion que je vous lis, la dernière phrase de ce chapitre. Vous voyez, les paroles, donc, elles ne deviennent, les paroles ne deviennent des crimes que lorsqu'elles préparent, qu'elles accompagnent ou qu'elles suivent une action criminelle. On renverse tout si l'on fait des paroles un crime capital au lieu de les regarder comme le signe d'un crime capital. Distinction importante, qui veut dire tout simplement qu'une parole ne peut être incriminée que si elle est vraiment le signe d'un crime capital. Quand elle fait en quelque sorte partie de l'action. Mais si cette parole est détachée de cette action, si elle est extérieure à cette action, si il s'agit d'une parole qui consiste simplement à raconter ce qui s'est passé, une action criminelle, ou une parole qui éventuellement explique pourquoi elle s'est passée. Eh bien, cette parole ne peut pas être considérée comme un crime. Elle ne fait pas partie de l'action. Bon. Ainsi, la seule limite à la liberté d'expression, elle doit porter sur les paroles qui débouchent sur des actions criminelles. Et si vous appliquez le critère de Montesquieu à des exemples récents, ça peut s'appliquer. Eh bien, vous voyez que sont condamnables les appels au meurtre, les messages qui incitent à la haine ou à la violence, les apologies de crimes. Mais il ne faut pas confondre ce type de parole avec des paroles qui cherchent tout simplement à évoquer, éclairer des crimes qui se sont déroulés. Ça n'a rien à voir. Une parole comme celle que répétait la radio Mille Collines en 1994 au Rwanda. Hein ? Tuer tous les cafards était clairement un message destiné à appeler à l'extermination de la population tutsi. Voilà, ça c'est une parole criminelle, incriminable, parce qu'elle fait partie de l'action criminelle. Donc vous voyez, j'en resterai là avec Montesquieu, vous voyez, mais c'est intéressant pour comprendre de quelle façon, vous voyez, ici on réfléchit sur les limites de la liberté d'expression. Mais comme on le voit, cette réflexion sur les limites de la liberté d'expression n'aborde pas le problème de savoir si les pensées exprimées témoignent, comme je vous le disais tout à l'heure, d'une véritable liberté de penser, ou si elles ne sont pas tout simplement des opinions toutes faites, qui ne reposent sur aucun véritable jugement de la part de celui qui les exprime. Or, vous le savez, un homme peut vivre dans un état où la liberté de penser, la liberté d'expression est garantie par la loi, où aucune censure ne lui interdit de publier ce qu'il veut, et pourtant n'être pas libre de sa pensée, au sens où il n'en est pas véritablement l'auteur, au sens où il ne fait que reproduire des opinions toutes faites. Et évidemment, c'est le cas quand il est question de préjugés. Parce que ici, il faut prendre au sérieux l'étymologie de ce terme. Préjugé, c'est ce qui a été jugé avant moi et sans moi. Il y a préjugé quand je n'ai pas moi-même jugé de ce que je dis et quand je suis incapable d'en rendre raison. Donc, vous voyez ici, à ce moment-là, le problème n'est plus celui des limites de ce qu'on peut dire, mais il est celui de savoir si celui qui s'exprime pense vraiment par lui-même et maîtrise véritablement ce qu'il dit. Comme le montre Montesquieu, je vais encore le mobiliser une dernière fois, comme le montre encore Montesquieu, mais cette fois dans la préface de l'Esprit des lois qu'on avait lu en début d'année. Les hommes ne peuvent pas se connaître dans leur nature d'homme tant qu'ils n'ont que des préjugés. Tant qu'ils n'en sont pas guéris, c'est le verbe qu'il emploie, tant qu'ils n'en sont pas guéris, c'est-à-dire tant qu'ils sont incapables de s'en distancier. Et pour souligner l'origine extérieure de nos préjugés, Montesquieu a cette formule qu'on avait déjà vue. L'homme, écrit-il, est cet être flexible qui se plie dans la société aux pensées et aux impressions des autres. Je reprends la formule. L'homme est cet être flexible qui se plie dans la société aux pensées et aux impressions des autres. Vous voyez ici que le pli dont parle Montesquieu, ce sont les préjugés. Ce sont les préjugés qui nous viennent des autres, à leur contact. Mais ce sont des préjugés dont nous avons oublié la provenance extérieure. Nous avons oublié que les opinions que nous croyons les nôtres, elles viennent d'autrui. Ce ne sont que des préjugés qui nous viennent des autres. Nous croyons ainsi que les pensées qui sont en nous sont l'expression véritable de notre pensée, sans nous apercevoir que nous les avons reçues, sans en avoir jugé. Aussi, pour se connaître vraiment comme homme, dans sa nature d'homme, il faut, explique Montesquieu, il faut que notre pensée se ressaisisse par un travail de réflexion grâce auquel elle prendra conscience de la flexibilité qui est constitutive de la nature humaine. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que veut dire ce terme de flexibilité ? Ça signifie tout simplement que, au fond, l'homme est un être qui est capable de se modifier, de recevoir toutes sortes de plis selon les circonstances sociales et politiques, c'est-à-dire il est capable, au fond, d'adopter toutes sortes de préjugés selon les circonstances sociales dans lesquelles il est placé, selon le type de société dans laquelle il se trouve. Et grâce à cette réflexion, nous prenons conscience de la flexibilité de notre nature, eh bien, nous mesurons à ce moment-là le caractère relatif du pli que nous avons pris, c'est-à-dire des préjugés que nous avons acquis du fait de la société où nous nous trouvons. Et de cette manière, nous pouvons nous ouvrir, grâce à la réflexion, à d'autres plis, c'est-à-dire à d'autres possibilités humaines, à d'autres manières d'être façonnés par les lois et les mœurs des nations, des diverses nations. Vous voyez ? Donc vous voyez ici, reprenant ce que disait Montesquieu, que penser librement, c'est vraiment penser par soi-même, mais on ne peut penser par soi-même que grâce à un acte de réflexion qui nous guérit de nos préjugés. Préjugés par lesquels, au départ, on croit se connaître, alors qu'en réalité, on s'ignore. Vous voyez ? C'est-à-dire que, au fond, ici, vous voyez bien que ce que montre tout simplement Montesquieu, c'est que nous sommes incapables de penser par nous-mêmes au départ, puisqu'au départ, nous avons des préjugés. Et que pour penser par soi-même, il faut se distancier de ces préjugés. Et il faut en quelque sorte que la pensée fasse un retour sur elle-même, il faut qu'elle réfléchisse pour apercevoir effectivement ce qu'il y a d'essentiel dans la nature humaine, cette fameuse flexibilité. Donc voilà, hein, si vous voulez, ce qui peut être montré. Mais toute la difficulté est que, encore une fois, on ne pense pas immédiatement par soi-même. On est incapable de penser immédiatement par soi-même. Et quand nous déclarons avoir des opinions personnelles, ce sont mes opinions personnelles, hein, nous aimons dire. Quand nous déclarons que nous avons des opinions personnelles, nous croyons librement penser, sans nous rendre compte que ces opinions que nous disons personnelles n'ont rien de personnel, et qu'elles témoignent plutôt de notre dépendance à des causes extérieures. Donc ces pensées qui sont en nous, que nous croyons émaner de nous, ce sont des pensées qui, en réalité, ont été faites sans nous, car elles nous viennent des autres. Ce sont des préjugés. L'explication de cette dépendance qui est d'abord inaperçue, nous est donnée par le grand philosophe Descartes, au début de la deuxième partie de son discours de la méthode. Il dit quelque chose de très simple. Nous avons été enfants avant que d'être hommes. Ah oui, il est fort, hein. Si c'est pour dire ça, hein, franchement, moi aussi, hein, je peux le dire. Hein. Bon. Vous voyez bien que ce n'est pas que ça qu'il y a derrière. Nous avons été enfants avant que d'être hommes, et il nous a fallu longtemps être gouvernés par nos appétits et nos précepteurs, nos éducateurs. L'enfant que nous avons été, il est d'abord incapable d'exercer sa raison pour discerner le vrai du faux par lui-même. Il est alors inévitablement condamné à croire d'abord ce que lui disent ses appétits et ses précepteurs. Il est condamné à régler sa conduite sur ce que ses éducateurs lui dictent. Le problème ne serait pas grave si l'enfance cessait avec l'âge de l'enfance. Le problème, c'est que l'enfance se prolonge au-delà d'elle-même. C'est un âge qui se prolonge dans notre vie d'adulte. Ayant pris l'habitude de nous fier justement à nos appétits et à nos précepteurs, bah nous persistons à croire ce qu'ils nous ont enseigné, ce qu'ils nous ont dit, même quand nous sommes adultes, alors que nous disposons pourtant de la raison pour juger par nous-mêmes. Or, comme le montre Descartes, si l'on veut apprendre à juger par soi-même, à distinguer le vrai du faux, afin, comme il l'explique, afin de voir clair en ses actions et marcher avec assurance en cette vie, eh bien, il est nécessaire de se défaire de ses anciennes opinions. Il est nécessaire, comme il l'écrit, de commencer tout de nouveau dès les fondements. Commencer tout de nouveau dès les fondements, c'est une formule que vous trouvez dans la première méditation métaphysique. Pour le dire autrement, il va être nécessaire d'effacer les traces de ce mauvais départ que constitue l'enfance. Il va être nécessaire de se reprendre en main et de recommencer tout à zéro, en quelque sorte. De quelle manière ? Eh bien, en apprenant à user méthodiquement de sa raison, notamment en mettant en œuvre un doute radical et méthodique qui permettra de se libérer de ses préjugés. Le fameux doute méthodique radical de Descartes, qui est l'instrument qui lui permet de se libérer de ses anciennes opinions, de ses préjugés, pour atteindre une vérité indubitable. Pour atteindre une vérité indubitable par soi-même, c'est-à-dire une vérité dont je ne préjuge pas, mais une vérité que je suis capable de connaître et de comprendre par les seules ressources de ma raison. Voyez donc que penser librement, penser par soi-même, c'est faire usage de sa propre raison. C'est ne reconnaître d'autre autorité pour juger que ma raison. C'est cesser de se soumettre à l'autorité extérieure d'un dogme, d'une tradition ou d'un maître à penser. Il n'y a pas d'autre autorité que celle de ma raison. C'est en moi-même que je vais trouver l'autorité qui me permettra de juger. La raison. La raison qui est en chaque homme, puisque le discours de la méthode commence par cette très célèbre formule que je vous cite, « Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée ». Mais le bon sens, ce n'est pas ce que nous disons par là. Le bon sens, ce n'est pas le sens commun. Le bon sens, tel qu'il est défini par Descartes, c'est la raison. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. C'est-à-dire, au fond, les hommes sont également pourvus de la raison. Ils sont tous également capables de juger. Le seul problème, c'est qu'ils n'en font pas usage le plus souvent ou qu'ils en font un mauvais usage. C'est pour ça qu'il faut une méthode pour bien exercer sa raison. Alors, vous voyez que pour Descartes, l'entreprise qui consiste à se libérer du préjugé pour penser par soi-même, elle dépend de l'initiative de chacun. Elle procède d'une décision de la volonté. Et selon lui, il suffit de décider de faire usage de la raison pour s'affranchir des préjugés et parvenir à la vérité. Puisque le bon sens, donc la raison, est la chose du monde la mieux partagée, les hommes sont tous également capables, selon lui, d'user leur raison pour se libérer du préjugé et établir eux-mêmes la vérité. Chaque individu, d'ailleurs, selon Descartes, est capable de reprendre à son compte la démarche qu'il a mise en œuvre et d'apprendre ainsi à penser par soi-même en faisant un usage méthodique de sa raison. Vous voyez, c'est comme cela que Descartes, effectivement, envisage une émancipation individuelle de la pensée, hein, à l'égard du préjugé. Toutefois, et c'est là le problème que nous allons examiner, est-ce qu'il suffit pour penser par soi-même, est-ce qu'il suffit de le vouloir, comme le considère Descartes ? Un individu livré à lui-même est-il en mesure de se libérer seul de ses préjugés et d'accéder à une pensée autonome ? Autrement dit, une émancipation individuelle de la pensée est-elle possible ? Eh bien, comme nous allons le voir en lisant l'opuscule de Kant, qu'est-ce que les Lumières ? Eh bien, pour Kant, il est rare qu'un homme puisse se libérer tout seul. Ah, il y a des Descartes, ça existe. Mais une telle libération est exceptionnelle. Car si les hommes ne sont pas aidés par ce processus que Kant, pas seulement lui, à son époque, appelle les Lumières, je vais en reparler. Si les hommes ne sont pas portés, ne sont pas aidés par le processus des Lumières, eh bien, ils ne pourront pas, pour la plupart, opérer ce travail d'affranchissement de la pensée, ce travail d'émancipation de la pensée. Alors, comme nous allons le voir, les Lumières, ce qu'on appelle au XVIIIe siècle les Lumières, Aufklärung en allemand, les Lumières sont ce processus par lequel les hommes instruits permettent à d'autres hommes d'exercer leur pensée en leur communiquant leur pensée. C'est-à-dire que les Lumières sont ce mouvement d'émancipation par lequel la clarté est obtenue, par lequel la lumière se fait en se diffusant, en se répandant, étant entendu que la lumière, ici, c'est la raison. C'est la raison qui éclaire. C'est-à-dire qu'au fond, je dirais, grâce à la communication des pensées des hommes instruits, les autres hommes apprennent à penser, apprennent à exercer leur raison et sont à ce moment-là en posture pour connaître et comprendre par eux-mêmes, voyez. En ce sens, les Lumières sont ce mouvement qui permet, évidemment, d'émanciper la pensée des hommes. Alors, voilà ce que nous allons comprendre en lisant le petit opuscule de Kant. Donc, vous voyez, on voit bien que le problème central qui sera abordé par lui, c'est donc le suivant, je le reprends. Comment l'homme peut-il accéder aux Lumières ? Comment est-il possible à l'humanité de sortir de la nuit des préjugés, de l'obscurité des préjugés, pour accéder à la lumière de la raison, c'est-à-dire à une pensée libre ? Puisque la lumière de la raison, c'est ce qui fait que je pense librement. Je ne pense librement que lorsque je pense par moi-même, et je ne pense par moi-même que lorsque j'exerce ma raison. Alors, avant d'entrer dans la lecture de ce petit opuscule, quelques mots sur Kant et sur les circonstances historiques de la rédaction de son article. Très peu de mots sur Kant, parce que là, il faudrait une heure entière pour parler de Kant, qui a vécu toujours au même endroit, à Königsberg. Il s'appelle aujourd'hui Kaliningrad. Emmanuel Kant est né en 1724, il est mort en 1804. C'est vraiment un monument philosophique. un des plus grands. Il est né sous le règne de Frédéric Guillaume Ier, qu'on appelait le roi Sergent. Le roi Sergent parce qu'il fonda et il organisa l'armée prussienne. Et au roi Sergent succéda en 1740 son fils, le très illustre Frédéric II le Grand. Frédéric II est né en 1712, il est mort en 1786. Alors, les années 1740-1770 sont l'apogée des Lumières en Prusse. Je rappelle que les Lumières, c'est ce mouvement de diffusion des savoirs, d'éclairement, hein, par lequel, au fond, les hommes apprennent à penser, s'instruisent. Bon. Eh bien, en 1784, donc date de l'article de Kant, c'est bientôt la fin d'un règne. Le grand roi, Frédéric II, a 72 ans et il va bientôt disparaître. Et on voit bien et on sent bien que les Lumières sont attaquées de toutes parts, par les milieux conservateurs, par une aristocratie qui n'a jamais pu supporter le mouvement des Lumières. Le successeur de Frédéric II, son neveu, Frédéric Guillaume II, et son ministre Wöllner, feront tout pour détruire les Lumières. Ils mèneront une politique d'intolérance à l'égard de la presse et plus généralement de la vie intellectuelle et religieuse, ce qui vaudra à Kant d'ailleurs des difficultés avec la censure quand règnera effectivement Frédéric Guillaume II. Un de ses livres majeurs qu'il a écrit sur la religion dans les limites de la simple raison, eh bien, son livre sera censuré. Il retrouvera sa liberté d'écrire et de publier en 1797, à la mort de ce fameux Frédéric Guillaume II. Alors, quand vous lisez l'opuscule de Kant, Qu'est-ce que les Lumières ? Vous voyez qu'à la fin, il y a un hommage qui est rendu à Frédéric II, qui peut surprendre si on ne connaît pas le contexte historique. Pourquoi ça peut surprendre ? Parce que Frédéric II était eux-mêmes un despote. Mais c'était le type même du despote éclair. Alors, on va en parler un peu. Et je vous renvoie ici, page 2, au paragraphe 7. Au paragraphe 7, j'ai souligné quelques passages. Si donc on demande, vivons-nous maintenant dans une époque éclairée ? La réponse est non, mais bien dans une époque d'accession aux Lumières. Vous avez trouvé ce passage ? Et puis, plus loin, à la fin du paragraphe, de ce point de vue, cette époque est l'époque de l'accession aux Lumières ou siècle de Frédéric. Alors, on pourrait penser qu'il est dans la flagornerie. Non, c'est pas exact, c'est pas ça. D'abord, s'il était dans la flagornerie, il dirait, oui, c'est le siècle des Lumières. Ne dis pas ça. Quand vous lisez le paragraphe 8, là on va en lire aussi le paragraphe 8, vous voyez plus précisément en quoi consiste l'éloge de Frédéric II par Kant. Je lis. Un prince qui ne trouve pas indigne de lui de dire qu'il considère comme un devoir en matière de religion de ne rien prescrire aux hommes, qu'au contraire s'en est un de leur laisser dans ce domaine entière liberté, un prince donc qui va jusqu'à décliner pour lui-même le nom hautain de tolérance est lui-même éclairé et mérite que ses contemporains et la postérité reconnaissant le célèbrent comme le premier à avoir sorti le genre humain de la minorité. Du moins, pour ce qui relève du gouvernement et avoir laissé chacun libre de se servir de sa propre raison dans tout ce qui est affaire de conscience. Sous son règne, il est permis à d'honorables prêtres, en qualité de savants, sans préjudice des devoirs de leur charge, d'exposer librement et publiquement au monde, pour examen, leur jugement et leur vue, qui s'écartent ici ou là, du symbole reçu. Alors, j'arrête là ma lecture. Donc, mérite une petite explication tout ça. Donc, je vous le disais, Frédéric II, c'est un despote éclairé. Alors, c'est un despote, disons, commençons par là. C'est un monarque absolu, plus puissant dans son royaume que ne le fut Louis XIV. Parce que Louis XIV, bon, il était effectivement un roi absolu, hein, mais tout de même, il se heurtait aux privilèges de la noblesse. Il ne pouvait pas faire tout ce qu'il voulait non plus. Ce qui n'est pas le cas de Frédéric II, qui a rabaissé considérablement l'aristocratie prussienne. C'est aussi un puissant chef de guerre qui a construit une armée extrêmement forte, disciplinée. Et puis c'est un despote qui a des visées impérialistes. Hein. Il va conquérir d'autres territoires, comme la Silésie. Son objectif, c'est de faire de la Prusse une très grande puissance, une grande puissance européenne. Et il y arrive. Alors, ce n'est certainement pas pour ça que Kant en fait l'éloge. Hein. Et s'il fait l'éloge de Frédéric II, malgré sa préférence pour le régime républicain, parce que Kant est républicain, hein, il n'est pas partisan du despotisme, hein, loin de là. Donc s'il fait l'éloge tout de même de Frédéric II, c'est dans la mesure où il le remercie de ne pas s'être mêlé, de penser à la place de son peuple. Son mérite, c'est d'avoir laissé ses sujets penser et raisonner librement, à la seule condition qu'ils obéissent. Hein, raisonnez tant que vous voudrez et surtout ce que vous voulez, mais obéissez. Il faut que ça marche. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de discussion. Mais vous pouvez penser comme vous voulez et vous exprimer comme vous voulez. Et tout en menant d'une main de fer son état, Frédéric II garantit donc une liberté d'expression qui est favorable au développement des Lumières. La Prusse, certes, n'est pas un état libre, mais on y trouve un essor des Lumières, un essor des connaissances qu'on ne rencontre pas dans les autres états où on doit tout autant souvent obéir sans pouvoir raisonner. Donc il faut savoir que Frédéric II était un grand lecteur, un admirateur des philosophes. Il a longtemps correspondu avec Voltaire, qu'il a invité à son château, de Sans Souci. Bon, ça ne s'est pas très bien passé, parce que Voltaire, je vais dire les choses vulgairement, c'était un peu une langue de pute. C'était vraiment un personnage assez provocateur. Enfin, bon, ça ne s'est pas très bien passé. Mais il n'y a pas qu'avec Frédéric II que ça se passait mal. Hein. Et puis, Frédéric II a écrit un anti-Machiavel, un ouvrage qui a pour titre « L'anti-Machiavel ». C'était un musicien admirateur de Jean-Sébastien Bach. Il avait été éduqué par un précepteur qui était un protestant français émigré en Prusse, après la révocation de l'édit de Nantes en 1685. Et il faut le savoir, bon nombre de Huguenots qui ont été chassés de la France sont allés s'installer en Prusse. Et le roi de Prusse était très content parce qu'ils ont formé une élite qui a permis au roi de Prusse de fortifier son pouvoir. Vous avez par exemple un descendant, enfin maintenant il doit être âgé, je ne sais pas s'il n'est pas mort, d'ailleurs un député allemand qui s'appelait Oscar Lafontaine. C'était un descendant de Huguenot. Ouais. Donc, comme le montre aussi le texte que je vous ai lu, il protège les pasteurs éclairés qui étaient inquiétés par leur hiérarchie pour avoir publié des livres non conformes aux instructions officielles. Donc, et puis alors, si, il développe des universités florissantes, et puis parallèlement, il rabaisse, comme je vous l'ai dit, l'aristocratie féodale, qui avait été avant lui assez puissante, et qui était hostile à toute réforme. Elle tenait notamment à maintenir le servage. Donc toutes ces raisons font que Kant salue le siècle de Frédéric, non pas comme une époque éclairée, mais comme une époque d'accession aux Lumières. La vie intellectuelle est en plein essor à Berlin, sous le règne de Frédéric II. On y publie des revues, des magazines, on participe à des cercles de lecture, et c'est d'ailleurs dans l'une de ces revues, donc la Berlinische Monatsschrift, le mensuel berlinois, que se trouve posée la question « Qu'est-ce que les Lumières ?» dans son numéro de décembre 1783, à laquelle répond l'article de Kant. L'article de Kant est une réponse à la question « Qu'est-ce que les Lumières ?» Donc, vous voyez, pourquoi il fait l'éloge de Frédéric ? Parce qu'il sent bien que le règne de Frédéric est sur sa fin, et il a très peur que les milieux conservateurs reviennent en force. Vous voyez ? Donc, c'est pas un éloge insincère, hein, c'est pas de la flagornerie. Hein. Abordons maintenant, si vous voulez, l'article. Regardez comment il commence, dès le début. La réponse est donnée dès le départ. Premier paragraphe. Accéder aux Lumières consiste pour l'homme à sortir de la minorité où il se trouve par sa propre faute. Être mineur, c'est être incapable de se servir de son propre entendement sans la direction d'un autre. L'homme est par sa propre faute dans cet état de minorité, quand ce n'est pas le manque d'entendement qui en est la cause, mais le manque de décision et de courage à se servir de son entendement sans la direction d'un autre. Sapere aude, qui veut dire en latin « ose savoir », et le courage de te servir de ton propre entendement, telle est la devise des Lumières. Donc vous voyez que vous avez d'abord la réponse, hein, accéder aux Lumières consiste pour l'homme à sortir de la minorité, où il se trouve par sa propre faute. Ensuite, vous avez une courte explication sur le terme de minorité. Et à la fin du paragraphe, il termine sa réponse par l'énoncé du maxime, Sapere aude, emprunté donc au poète latin Horace, dont il fait la devise des Lumières, qu'il présente donc comme la devise des Lumières. Et le courage de te servir de ton propre entendement, telle est la devise des Lumières. Et puis tout le reste de l'article est destiné à expliquer et à justifier cette réponse. Alors, comme on le voit ici, encore une fois, les Lumières désignent moins un résultat qu'un processus, un mouvement d'éclairement, un mouvement d'émancipation, par lequel l'humanité sort de l'état de minorité, sort de l'état de dépendance où elle se trouve, pour aller, évidemment, vers la pensée libre. Et le terme de minorité est ici, évidemment, extrêmement important. Évidemment, on doit ici le regarder avec beaucoup d'attention. Ordinairement, par minorité, on entend un état de protection juridique qui concerne celui qui n'est pas encore capable de prendre par lui-même des décisions qui conviennent à la conduite de sa vie et qui doit être pris en charge par un autre que l'on appelle un tuteur. C'est le cas des enfants, mais parfois de quelques personnes handicapées, de quelques vieillards. Mais Kant ne parle pas ici de minorité et de majorité dans ce sens juridique. Alors, qu'est-ce qu'il entend par un homme majeur, d'abord ? Un homme majeur s'entend pour lui d'un homme qui se montre capable de décider lui-même de ce qu'il a à faire, de ce qu'il a à être. Et cela signifie que l'homme n'est pas simplement majeur parce qu'il arrive biologiquement à l'âge adulte. L'homme n'est pas, comme les autres êtres vivants, gouverné par les seuls instincts naturels. Il a à se gouverner lui-même. Et c'est en cela que consiste sa liberté. C'est en cela qu'il est vraiment majeur. Mais encore faut-il qu'il veuille se gouverner lui-même. Encore faut-il qu'il veuille être majeur. Et dire, vous voyez, que dire que l'homme est libre, dire que la nature de l'homme, c'est la liberté, c'est donc comprendre qu'il ne suffit pas de respirer et de croître comme un animal ou une plante pour être libre. C'est comprendre que la liberté de l'homme n'est pas un fait, mais une conquête. Une conquête qui ne dépend que de lui. Au fond, il dépend de sa liberté d'être libre, en quelque sorte, si vous voulez. Il dépend de sa liberté de conquérir sa liberté. Vous voyez que la liberté exige, en quelque sorte, qu'il veuille se gouverner lui-même. Seulement, le problème, c'est que si vous regardez ce que sont les hommes, la façon dont vivent les hommes, ben vous voyez que la plupart demeurent mineurs. La plupart demeurent mineurs. Ils ne veulent pas se gouverner. Alors qu'on pourrait s'attendre qu'à leur âge, ils aient enfin pris leur vie en main. Donc ici, vous voyez que vous êtes devant un étrange paradoxe, puisque l'homme, par nature, est libre, l'homme est naturellement majeur, au sens où il dispose en lui des moyens de son autonomie, il dispose en lui de l'entendement, ici synonyme de la raison, hein. Il dispose en lui de cette faculté qu'est l'entendement, qui lui permet de penser, d'agir et de juger par lui-même. Donc, il dispose en lui des moyens de son autonomie. Or, le plus souvent, il tend à renoncer à l'autonomie. Et il se place de lui-même dans un état de minorité. Vous voyez ? C'est ça, l'étrange paradoxe de la condition des hommes. Ils ont les moyens d'être autonomes et ils renoncent à leur autonomie. Ils renoncent à leur autonomie en obéissant à des autorités extérieures, à des préjugés, à des croyances, à des maîtres à penser. Donc vous voyez que, alors que l'homme est naturellement majeur, il se conduit en fait comme s'il était mineur. Alors cet état de minorité, Kant y insiste, ne provient pas d'une incapacité naturelle. C'est un état artificiel qui résulte de la volonté des hommes. Et Kant répète plusieurs fois, c'est de leur propre faute. Les hommes sont mineurs par leur propre faute. Il le répète. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que plutôt que de se gouverner eux-mêmes, les hommes préfèrent suivre la pente de la facilité, par manque de courage, par paresse, en se laissant conduire par des tuteurs. Et je vous invite à regarder, par exemple, la phrase qui commence le second paragraphe. La paresse et la lâcheté sont les causes qui font qu'un aussi grand nombre d'hommes préfèrent rester mineurs leur vie durant, longtemps après que la nature les a affranchis de toute direction étrangère. C'est-à-dire longtemps, ils sont, la nature les a affranchis d'une direction étrangère, au sens où, étant devenus adultes, eh bien, ils disposent des moyens d'être autonomes, ils disposent de l'entendement qui leur permettrait, s'ils l'utilisaient, qui leur permettrait de se diriger eux-mêmes. Mais ils n'en font pas usage. Vous voyez ? Alors, vous comprenez par conséquent que si les hommes restent dans cet état, eh bien évidemment, ils ne réaliseront pas leur humanité. Vous voyez ? Ils ne pourront vraiment atteindre leur majorité, ils ne pourront être effectivement libres que s'ils s'arrachent à l'état de minorité dont ils sont responsables. C'est-à-dire que s'ils osent se soustraire à l'emprise de toute tutelle, que s'ils ont le courage de se servir de leur propre entendement. Vous voyez, la liberté, il faut qu'ils la conquièrent. Hein, ce n'est pas quelque chose qui est donné. Si, ils ont les moyens de l'être. Mais encore faut-il qu'ils fassent usage de ces moyens, qu'ils se servent de leur propre entendement pour être vraiment majeurs. Et ici, bien sûr, ce ne sont certainement pas les tuteurs auxquels les hommes confient le soin de leur direction. Ce ne sont pas ces tuteurs qui vont encourager les hommes à s'émanciper. Car bien sûr, ces tuteurs vont tout faire pour maintenir les hommes dans leur état de minorité. Je lis, vous voyez, dans le paragraphe 2, 4-5 lignes après le début, vous voyez ce qu'écrit Kant, et ces mêmes causes font qu'il devient si facile à d'autres de se prétendre leur tuteur. Hein ? Ces mêmes causes font qu'il devient si facile à d'autres de se prétendre leur tuteur. Alors, comprenez aussi que les tuteurs n'exercent une autorité que parce que les hommes qui leur sont soumis y consentent. C'est-à-dire, au fond, à la racine de leur domination, il y a bien ce qu'on peut appeler une servitude volontaire, pour reprendre l'expression de la Boétie. Et comme le montre ironiquement Kant dans la suite du texte, la servitude a bien des avantages. La servitude a bien des avantages. Elle dispose les hommes d'avoir à faire des efforts, elle les dispense d'avoir à exercer leurs facultés, elle les dispense d'avoir à prendre des risques pour se diriger eux-mêmes. Et regardez la formule ironique de Kant, il est si aisé d'être mineur. Et pour souligner le confort que procure l'état de minorité, eh bien, vous voyez qu'ensuite, Kant met en scène le désir qu'ont les hommes de se laisser prendre en charge, en utilisant la première personne du singulier, et en indiquant d'ailleurs par là qu'il s'agit d'un désir auquel tous les hommes, y compris lui-même, sont prêts à succomber. Alors, regardez, lisons la suite. Hein. Après, il est aisé d'être mineur. Avec un livre qui me tient lieu d'entendement, un directeur de conscience qui me tient lieu de conscience, un médecin qui juge pour moi de mon régime, etc., etc. Je n'ai vraiment pas besoin de me donner moi-même de la peine. Il ne m'est pas nécessaire de penser pourvu que je puisse payer. D'autres se chargeront bien pour moi de cette ennuyeuse besogne. Avec la servitude, elle commence à partir du moment où on envisage sa vie comme une pure consommation, comme une pure consommation de service. Vous voyez ? Quand on envisage uniquement sa vie comme une forme de consommation, on est prêt à se laisser diriger. Et à la liste des exemples, d'ailleurs, de suggestions qui sont évoquées par Kant, alors la liste n'est pas exhaustive. Alors évidemment, ici, pas de contresens. Ne pensez pas, par exemple, qu'il critique l'usage des livres. Hein. Quand il dit, par exemple, ici, avec un livre qui me tient lieu d'entendement, il n'est pas en train de dire que la lecture est mauvaise, pas du tout. Mais simplement, certains se servent de livres comme si, effectivement, ils contenaient des recettes à appliquer, vous voyez, sans avoir à réfléchir à ce qu'ils recherchent. Bon. Donc, à la liste des exemples que donne Kant, j'aurais envie d'ajouter, exemple moderne, l'intelligence artificielle. Parce que elle nous promet une assistance algorithmique pour quasiment tous les usages de notre quotidien. Je ne sais pas, moi, pour faire nos repas, pour gérer notre emploi du temps, gérer nos comptes, pour nous diriger dans une ville. Et puis, bientôt, les enfants demanderont « Mais pourquoi aller à l'école ?» Parce que tout est disponible. La machine, elle me donne tout et elle rédige bien mieux que moi. Alors pourquoi je me donnerais la peine d'apprendre à rédiger et à apprendre des connaissances? C'est un effet très pervers de ce que peut être ici une technique aussi performante. Donc, vous voyez, bon, je ferme ma parenthèse, mais vous voyez que comparé aux facilités, aux agréments de la servitude, la liberté apparaît comme quelque chose de bien pénible, de bien difficile, et même de périlleux. Et les tuteurs eux-mêmes font tout pour entretenir, justement, les hommes dans la conviction que de loin, de très loin, la servitude est préférable à la liberté. Je lis la suite du texte. Les tuteurs qui se sont très aimablement chargés d'exercer sur eux Les tuteurs qui se sont très aimablement chargés d'exercer sur eux leur haute direction ne manquent pas de faire que les hommes, de loin les plus nombreux et avec le beau sexe tout entier, tiennent pour très dangereux le pas vers la majorité, qui est déjà en lui-même pénible. Alors, poserai la question, mais à qui pense Kant quand il parle des tuteurs? C'est un terme général qui désigne tous ceux qui prétendent exercer une autorité sur les hommes. Évidemment, on pense surtout aux despotes sur le plan politique, et puis aussi à la hiérarchie cléricale sur le plan religieux. Parce que c'est ça aussi que vise Kant. Et que ces tuteurs insistent tout particulièrement sur le caractère périlleux, sur le caractère dangereux de la liberté. Et ils aiment à se faire passer pour des protecteurs, pour des gardiens de la sécurité de leurs ouailles. Vous voyez, par exemple, ici, je lis la suite. « Après avoir abêti leur bétail et avoir soigneusement pris garde de ne pas permettre à ces tranquilles créateurs, à ces tranquilles créatures, d'oser faire le moindre pas hors du chariot où ils les ont enfermés, il leur montre le danger qui les menace si elles essaient de marcher seules. » Alors, vous voyez que sous l'apparente bienveillance et le ton protecteur, perce en réalité le plus grand mépris pour les hommes, qui ne sont pour ces tuteurs que du bétail. Vous voyez l'expression, vous voyez le terme. Ou des créatures à leur service, et qu'ils placent sous leur contrôle. Dire que les hommes sont du bétail, on sait à quoi sert le bétail. Le bétail finit à l'abattoir. Donc voilà qui en dit long sur les intentions réelles de ces faux protecteurs qui n'hésiteront pas à l'occasion de se servir des hommes qui sont à leur disposition, de leurs créatures, comme de la chair à canon. Parce qu'on pense surtout à toutes ces guerres que mènent les despotes à l'époque. Alors même si... Il y a tout de même une question qui se pose. Parce que même si on sait que les tuteurs ont tout intérêt à maintenir les hommes dans la servitude, est-ce qu'il ne faut pas reconnaître tout de même qu'il est périlleux de sortir de l'état de minorité? Est-ce qu'il ne faut pas reconnaître que la liberté est dangereuse? Qui n'ont pas tort sur ce point? et que l'exercice de la liberté est risqué et peut conduire à des échecs et même à des catastrophes. Eh bien, à cette question, Kant répond en faisant une comparaison entre l'apprentissage de la liberté et celui de la marche. Et pour bien comprendre cette comparaison, il faut que j'explique un terme que j'ai cité tout à l'heure, mais dont vous ne pouvez pas spontanément comprendre le sens. C'est le terme de chariot. Vous voyez, je reprends dans la phrase que je vous ai dit tout à l'heure, ce terme, je relis le passage. « Après avoir soigneusement pris garde de ne pas permettre à ces tranquilles créatures d'oser faire le moindre pas hors du chariot où ils les ont enfermés. » Alors, qu'est-ce que c'est que ce chariot ? Le chariot dont il est question ici désigne une sorte d'appareil monté sur des roulettes qu'on utilisait au XVIIIe siècle, hein, et dans lequel on installait les enfants pour leur apprendre à marcher sans risque. On les mettait, hein, dans un chariot. Hein. Et ça existe encore, sans doute, mais rarement tout de même. On voulait éviter de cette façon qu'ils tombent et se blessent dangereusement. Or, sur ce point, Kant, qui est un disciple de Rousseau, qui est un grand admirateur de Rousseau, qui a lu l'Émile, son traité d'éducation, et Rousseau part en guerre contre tous les appareils qui sont destinés à emmailloter les enfants, à en quelque sorte les entraver dans leur mouvement. Hein, il est absolument hostile à tout ça. Eh bien, Kant, effectivement, de la même manière que Rousseau, réprouve ce genre de procédé qui ne peut que retarder inutilement et même dangereusement le moment où l'enfant saura marcher. En réalité, il n'y a pas d'autre façon d'apprendre à marcher que de s'y essayer et de tomber lors des premiers essais jusqu'à ce qu'on parvienne à se tenir soi-même debout. Il n'y a pas d'autre méthode. Regardez ce que dit Kant à la fin du paragraphe. C'est pourquoi... Or, ce danger n'est vraiment pas si grand, car elle finirait bien par apprendre à marcher après quelques chutes. Vous voyez ? Donc, loin de l'aider à apprendre à marcher, ce chariot dispense en fait l'enfant de se tenir debout lui-même. Et à ce moment-là, la conséquence, c'est que l'enfant s'écroule dès qu'on lui enlève cet appareil. Eh bien, il en est de même pour l'apprentissage de la liberté, qui est apprentissage de la pensée. Il n'y a pas d'autre façon d'apprendre à penser et à juger que de se lancer. Hein, il faut se jeter à l'eau, en quelque sorte. Alors, les premières tentatives seront sans doute l'occasion d'erreurs, mais c'est un risque à prendre, comme pour la marche. Ou bien, sinon, jamais on ne pensera par soi-même. Toutefois, il y a une différence. Il y a une différence avec la marche qu'il faut souligner, comme va le montrer le paragraphe suivant. Il est rare qu'un enfant ne finisse pas par marcher, même lorsqu'on lui a fait subir l'usage d'un chariot. Concernant la pensée, les instruments utilisés par les tuteurs sont autrement plus redoutables. Ces instruments, comme il le dit, ce sont des préceptes, ce sont des formules auxquelles les tuteurs soumettent les hommes pour en quelque sorte brider leur pensée, pour la tenir en laisse. Vous voyez ? Je lis le passage, c'est paragraphe 3. Hein, paragraphe 3, vous voyez, à un moment donné, c'est la troisième phrase. Préceptes et formules, instruments mécaniques, permettant un usage raisonnable, ou plutôt un mauvais usage de ces dons naturels, sont les entraves qui perpétuent la minorité. Et il y a des instruments qui sont là pour brider la pensée, hein, et qui l'empêchent de se développer. Et ça, c'est très, très pernicieux, parce que ça va entretenir les hommes dès leur plus jeune âge. Hein. dans la servitude, dans la minorité. Et les conséquences, donc, sont beaucoup plus graves que celles qui sont engendrées par l'usage du chariot dans l'apprentissage de la marche. Celui qui a subi ce genre de dressage et qui rejetterait donc ces instruments, eh bien, il se trouverait en très grande difficulté, en cherchant à penser par lui-même. Ici, je relis à nouveau le passage, si vous voulez, à partir de là où je l'ai commencé jusqu'à la fin. Préceptes et formules, instruments mécaniques permettant un usage raisonnable, ou plutôt un mauvais usage de ces dons naturels, sont les entraves qui perpétuent la minorité. Celui-là même qui les rejetterait ne franchirait le plus étroit fossé que d'un saut encore mal assuré, parce qu'il n'est pas habitué à une semblable liberté de mouvement. C'est pourquoi il n'y a que peu d'hommes qui soient parvenus à s'arracher à la minorité en exerçant eux-mêmes leur esprit et à marcher, malgré tout, d'un pas sûr. Vous voyez le problème ? C'est que quand vous avez été bridé de cette manière et que subitement vous êtes dans une entière liberté de mouvement, vous vous cassez la figure, vous chutez et vous avez du mal à vous relever. Donc vous n'arrivez pas de cette manière à vous émanciper, ça devient très difficile de vous émanciper. Et rares sont les hommes, comme Descartes, rares sont les hommes qui sont parvenus à s'arracher tout seuls de la minorité en exerçant eux-mêmes leur pensée, leur propre pensée. Donc vous voyez ici que Kant mesure la difficulté pour l'individu livré à lui-même de s'arracher tout seul à la minorité pour accéder à une autonomie de la pensée. Et cette difficulté est telle que la minorité apparaît pour la plupart des hommes insurmontable. Au point même qu'ils finissent par penser qu'il y a là une seconde nature. Je lis par exemple le début du paragraphe 3, regardez bien. Il est donc difficile pour chaque homme, pris individuellement, de s'arracher à la minorité, qui est presque devenue pour lui une nature. C'est-à-dire que les hommes finissent par croire qu'ils sont naturellement incapables d'autonomie. Ils finissent par le croire, tant ils ont été habitués, en quelque sorte, à rester serviles. Ils n'envisagent pas qu'ils puissent en être autrement. Et toute la difficulté est là, vous voyez. Si l'émancipation individuelle, donc d'un individu seul, livré à lui-même, est très difficile et risque même d'apparaître impossible, est-ce qu'il y a une autre voie ? Est-ce qu'il est possible d'envisager autrement l'émancipation ? La réponse est oui. Une autre voie rend possible l'émancipation, une autre voie qui va permettre aux individus d'apprendre à penser. Mais de quelle manière ils vont apprendre à penser ? Eh bien, par le moyen d'une discussion publique. Par le moyen de la discussion publique, en confrontant librement leurs opinions. Et lisez ici avec moi le début du paragraphe 4. Voyez la réponse de Kant. Voilà la solution qui est possible. Mais qu'un public s'éclaire lui-même, voilà qui au contraire est possible. C'est même presque inévitable, pourvu qu'on lui en laisse la liberté. Voyez ce passage, très important. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Que veut dire d'abord le terme de public ? Le public désigne, si vous voulez, la communauté qui se constitue sous l'impulsion de la liberté qui est accordée à la pensée. Donc c'est une communauté qui se constitue comme un espace ouvert de discussion, comme un espace ouvert à la discussion et à une réflexion qui n'est pas soumise à l'autorité. Une réflexion qui n'est pas censurable. Une réflexion dont la puissance critique peut même éventuellement mettre en cause les pouvoirs en place. voyez, c'est-à-dire que c'est ça la solution. C'est-à-dire que se constitue, grâce à la liberté d'expression, que se constitue un espace public de discussion qui permettra aux hommes d'émanciper leur pensée au contact de la pensée des hommes instruits. Vous voyez, c'est de cette façon-là que l'émancipation se fera. Et là, les hommes ne seront pas tout seuls. Ils auront un point d'appui. Vous voyez ? Alors, s'il est vrai, comme on l'avait dit au début, qu'il ne suffit pas qu'un État accorde la liberté d'expression pour que les hommes exercent librement leur pensée, il est vrai également que sans liberté d'expression, la liberté de penser ne peut pas s'exercer et se développer. Et comme le remarque, alors là je prends un autre texte, parce que Kant ici n'explique pas dans le Qu'est-ce que Lumière, il n'explique pas le rôle fécond de la liberté d'expression, il l'explique beaucoup plus dans un autre texte que je vous ai photocopié, qui est un extrait d'un article aussi qui s'appelle « Qu'est-ce que s'orienter dans la pensée ?» et qui se trouve page 3. Il se trouve page 3. Deuxième paragraphe. Laissez la première phrase du deuxième paragraphe. On dit, il est vrai que la liberté de parler ou d'écrire peut nous être ôtée par une puissance supérieure, mais non pas la liberté de penser, c'est ce que je disais au tout début d'ailleurs. Mais penserions-nous beaucoup et penserions-nous bien si nous ne pensions pas, pour ainsi dire, en commun avec d'autres, qui nous font part de leurs pensées et auxquelles nous communiquons les nôtres. Aussi bien l'on peut dire que cette puissance extérieure qui enlève aux hommes la liberté de communiquer publiquement leurs pensées, leur ôte également la liberté de penser. Vous avez bien repéré ce passage-là, très important. C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que toute atteinte à la liberté d'expression, en définitive, c'est une atteinte à la liberté de penser. C'est une atteinte à la liberté d'exercer sa pensée. Pourquoi ? Bah parce que la communication des pensées est essentielle à la formation de ma propre pensée. J'ai besoin de la communication des pensées des autres. J'ai besoin, en quelque sorte, vous voyez, de faire l'épreuve des pensées des autres pour forger ma propre pensée. C'est très important. Par formation, ici, de ma pensée, n'entendez pas la réception passive des pensées des autres. Sinon, ça, c'est du préjugé. Hein. C'est pas ça, bien sûr. Non, il faut comprendre que nous avons besoin de nous mettre à l'épreuve du jugement des autres pour nous assurer de la vérité de notre propre jugement, pour apprendre à penser par nous-mêmes. En matière de vérité, c'est à chacun de juger par sa propre raison. Hein ? Il ne peut pas s'agir de renoncer à son propre jugement pour se conformer à une opinion. Mais consulter le jugement des autres ne veut pas dire qu'on va s'y ranger à l'avance. Ça ne veut pas dire ça. Hein ? D'ailleurs, il se peut qu'un homme ait raison contre tous les autres. Galilée a des raisons tout seul. Bon, donc, ce n'est pas le nombre de voix qui fait la vérité d'une proposition. Une proposition n'est vraie que parce qu'elle peut être établie par la raison. Et si elle est établie par la raison, ça signifie qu'elle vaut universellement. Elle peut être reconnue par tous les hommes qui pensent, par tous les hommes qui raisonnent. Donc, si je reviens à mon idée, que nous ayons besoin de communiquer nos pensées pour les mettre à l'épreuve du jugement des autres et que nous ayons nous-mêmes à mettre à l'épreuve les pensées communiquées par d'autres, cela signifie que la liberté d'expression est essentielle à la recherche de la vérité. Les savants ne travaillent pas tout seuls, isolément. Ils forment une communauté scientifique, ils échangent les résultats de leurs travaux, ils discutent, ils se font des objections. Et c'est comme ça que la recherche avance. Et elle ne peut avancer que parce qu'elle est libre. Et si vous avez un monsieur Trump qui intervient pour dire ben ça, vous n'avez pas le droit de développer ce secteur de science, ben ça va complètement bloquer la recherche. La recherche a besoin d'une entière liberté, vous voyez, pour se développer. Et évidemment, chacun élaborant un certain nombre de jugements qu'il met à l'épreuve des autres, qui lui envoie des objections, etc., etc. Et des discussions. Évidemment, encore une fois, cela ne signifie pas qu'on doive renoncer à juger soi-même pour s'en remettre au jugement des autres. Ça ne signifie certainement pas cela. Mais donc, c'est au contact du jugement des autres qu'on apprend à penser. Voilà ce qu'il faut comprendre. L'article « Qu'est-ce que les Lumières ?» est assez peu explicatif sur ce point. Puisque si vous regardez bien ce que dit ici Kant, il se contente de dire qu'il suffit que la liberté d'exprimer ses pensées soit accordée pour que les Lumières se propagent. Hein, regardez bien la formule qu'il utilise au début du paragraphe 4. Hein. Mais qu'un public s'éclaire lui-même, voilà qui au contraire est possible, c'est même presque inévitable pourvu qu'on lui en laisse la liberté. Vous voyez ? Il n'explique pas davantage. Donc il est inévitable, selon Kant, qu'un public accède aux Lumières si on lui laisse, au fond, la liberté de s'exprimer. Voilà, c'est important. C'est-à-dire si on laisse aux hommes instruits la possibilité de publier leur jugement, eh bien alors, qu'est-ce qu'on verra ? On verra que peu à peu, par la lecture de leurs œuvres, les hommes deviendront éclairés. Ils deviendront eux-mêmes de plus en plus instruits. Ils apprendront de plus en plus à exercer leur jugement. Vous voyez ici que c'est comme cela que Kant envisage le progrès des Lumières. Vous aurez remarqué qu'il ne parle pas d'école. Précepteur, il ne parle pas d'école parce qu'il le dit dans notre texte, le texte sur l'éducation, parce qu'il considère que, surtout à son époque, si les princes, si les princes construisaient des écoles, ils ne dépenseraient pas de l'argent pour l'école si ça leur est pas utile. Hein. Ils chercheraient à former des gens pour servir pour tel ou tel métier ou pour servir dans l'armée, mais ils ne feraient pas des écoles pour instruire, pour éclairer le jugement. C'est pas le but qu'ils rechercheraient. Hein. Donc c'est pour ça que Kant mise avant tout sur la constitution d'un public capable de juger grâce au progrès des Lumières, grâce à la communication des pensées. Public qui, au départ, est peu nombreux et qui peut ensuite s'élargir. Le public, ici, ce n'est pas le peuple entier. Hein. Le public, ici, ce sont les hommes éclairés. Mais le cercle des hommes éclairés peut s'élargir. Et idéalement, il peut s'élargir à toute la population, au peuple entier, idéalement. Hein. Donc, ce que, évidemment, vous comprenez, c'est que la grande idée de Kant, c'est l'idée d'une opinion publique éclairée. Hein. C'est ça qui importe beaucoup. L'idée de publicité est une idée très importante à l'époque des Lumières. Mais, évidemment, le terme de publicité n'a absolument rien à voir avec le sens que... avec le sens que nous lui accordons aujourd'hui, hein, c'est évident. Et ici, l'espace public dont parle Kant n'a pas grand-chose non plus à voir avec ce que nous appelons aujourd'hui les médias. Les médias qui sont surtout préoccupés de communiquer des préjugés, il faut bien le dire, hein, pas vraiment d'instruire. Bon. L'idée de publicité n'a rien à voir aussi avec ce que nous entendons aujourd'hui donc par la publicité et aussi la propagande. L'idée de publicité, elle part du principe, pour Kant, hein, pour les Lumières, elle part du principe que la vérité se propage du seul fait qu'elle paraît. Elle se propage du seul fait qu'elle paraît. Je veux dire par là, elle se propage du seul fait qu'elle paraît dans la mesure où les hommes auxquels elle est montrée la comprennent. Vous voyez, la vérité, elle se diffuse et elle se diffuse sans autre moyen que, au fond, la compréhension des hommes, finalement, qui s'en emparent, hein, et qui l'authentifient par leur raison, voyez ? C'est-à-dire que la seule publication des œuvres de la raison propage nécessairement les lumières. Hein ? Regardez aussi le début du paragraphe 5. Or, pour propager les lumières, il n'est rien requis d'autre que la liberté. Hein ? Donc, cette propagation des lumières, c'est un processus qui n'a rien d'une propagande, ni d'une sorte de contagion, vous voyez ? C'est-à-dire que la propagande, ou la publicité telle que nous l'entendons aujourd'hui, c'est une technique fondée sur le préjugé. C'est une technique fondée sur le préjugé, parce que quand on veut vendre un produit, eh bien, il faut séduire, et il faut prendre appui sur des croyances, sur les croyances qui sont en cours. Hein. On cherche à conditionner un public pour qu'il achète le produit qu'on veut qu'il achète. Bon, c'est comme ça qu'on procède. La propagation des lumières n'a rien d'une propagande. Hein, il ne s'agit pas de séduire, de flatter, il s'agit de s'adresser à la raison. Et donc, elle s'entend comme la diffusion de la lumière, c'est-à-dire comme la lumière, elle ne donne à l'homme ni la vue, ni la vérité, mais elle met l'homme en mesure de voir par lui-même la vérité. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'au fond, comprenez l'image, hein ? La propagation, c'est comme la diffusion d'une lumière. La lumière, quand vous avez de la lumière, vous pouvez voir. La lumière ne vous apporte pas la vue, hein, mais elle vous donne les moyens de voir. Eh bien, c'est la même chose. C'est de cette manière-là qu'il faut comprendre ici cette propagation. Donc, voilà. Et comme le précise encore Kant, là, je suis obligé d'être un peu plus rapide sur ces points. Cette diffusion des lumières, elle ne peut pas se faire rapidement. Elle ne peut se faire que lentement. On ne passe pas du jour au lendemain de la nuit des préjugés et de la superstition à la lumière du savoir. Accéder aux lumières, c'est changer progressivement sa façon de penser. C'est se transformer soi-même intérieurement de telle sorte qu'au lieu de préjuger, eh bien, on juge véritablement. Et c'est pourquoi Kant exclut les solutions révolutionnaires. Il exclut la révolution. Regardez bien, paragraphe 4. Bas de la fin du paragraphe 4, les dernières lignes. C'est pourquoi un public ne peut parvenir que lentement aux lumières. Vous avez repéré ce passage ? La suite. Une révolution peut bien entraîner la chute du despotisme personnel et de l'oppression née de la soif de richesse et de domination, mais jamais une vraie réforme du mode de pensée. Au contraire, de nouveaux préjugés serviront aussi bien que les anciens de lisière à la grande masse sans pensée. Bon, il y a un petit côté tout de même condescendant avec la masse, chez Kant, ça, c'est clair. Pour lui, les réformes ne peuvent venir que d'en haut, hein, par les esprits éclairés. Il y a cette idée tout de même. Mais bon, ce qui est intéressant, malgré tout, dans ce qu'il dit, c'est cette idée que la transformation, elle ne peut être que lente. Les hommes ne changent pas du jour au lendemain. On ne passe pas brutalement l'obscurité des préjugés à la clarté de la pensée. C'est un lent travail. Et donc une révolution, ça bouscule pas mal de choses, ça peut renverser effectivement un despote, mais est-ce que ça va vraiment transformer les hommes ? Voilà la question qu'il faut se poser. Et Kant en doute, évidemment. Alors, pour terminer, et c'est le dernier point que j'aborde, c'est que, bon, si je fais le bilan, comme on l'a vu, la liberté d'expression est la condition nécessaire de l'accès aux lumières. Bon, ça c'est clair pour tout le monde, j'espère, puisqu'elle est ce qui permet à chacun d'apprendre à penser par soi-même. Pour autant, elle n'est pas le droit de s'exprimer sans limite et en toute occasion. Et comme on va le voir, la liberté d'expression ne saurait mettre en cause l'obéissance civile, c'est-à-dire l'obéissance aux lois. Pour clarifier les choses, vous allez voir que Kant va distinguer ce qu'il appelle l'usage privé de la raison de son usage public. L'usage privé de la raison doit être limité, on va expliquer ce que c'est, hein, tandis que l'usage public de la raison n'a pas de limite. Il n'a pas de limite, il doit être entièrement libre. Et donc, effectivement, il faut expliquer d'abord ce qu'il entend par l'usage privé de la raison. Alors, il appelle usage privé de la raison l'usage qu'un homme fait de sa raison dans une fonction, dans un métier, dans le cadre d'une fonction. Par exemple, dans la fonction d'officier, ou de fonctionnaire des finances, ou même de prêtre d'une église. Ce sont les exemples qu'il donne au début du paragraphe 5. Hein, regardez bien les exemples qu'il donne. J'entends, quatrième ligne, j'entends à présent crier de tous côtés, « Ne raisonnez pas !» L'officier dit, « Ne raisonnez pas !»« Faites les manœuvres !» Le fonctionnaire des finances, « Ne raisonnez pas !»« Payez !» Le prêtre, « Ne raisonnez pas !»« Croyez !» Il n'y a qu'un seul maître au monde qui dise « Raisonnez autant que vous voudrez et sur tout ce que vous voudrez, mais obéissez. » Dans tous les cas, la liberté est limitée. Alors, voilà, ça c'est ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que, pour prendre des exemples, l'officier, il fait usage de sa raison dans l'exercice de sa fonction. C'est bien en faisant usage de sa raison qu'il exécute l'ordre qu'on lui donne. Hein ? Il lui faut tout de même la raison pour remplir sa fonction. Seulement, l'usage qu'il fait de sa raison dans le cadre de sa fonction, c'est un usage privé, en ce que, justement, il exerce sa raison dans les limites de sa fonction. Dans les limites de sa fonction. Vous avez ici l'usage privé, c'est un usage limité de la raison. C'est-à-dire que l'officier ne peut pas raisonner jusqu'à discuter du bien fondé de l'ordre qu'il a reçu. Jusqu'à s'interroger devant son général sur la tâche qu'il doit accomplir. Exécution. Bon. Et de manière générale, tous les hommes, dès lors qu'ils exercent une fonction, un métier, sont comme des rouages. Sont comme les rouages d'un vaste mécanisme social qui assigne à chacun une place, un poste très précis. Et aucune société ne peut fonctionner si les uns et les autres, au lieu d'effectuer leurs tâches, sont en train de se demander pourquoi ils ont à la faire, pourquoi ils ont à l'exécuter. Vous voyez, pour qu'une société fonctionne, il faut que chacun soit à sa tâche et exécute finalement sa fonction, hein, sans entrer dans des débats sur l'opportunité d'effectuer ce genre de tâches. Hein. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, une société. C'est un mécanisme où chacun est en quelque sorte une sorte de rouage. Voilà. Et de ce point de vue, les hommes sont passifs. Hein ? Bon. D'ailleurs, c'est ce que dit Kant. Hein, regardez bien. Je vais vous citer un passage, mais il se trouve dans le paragraphe qui se trouve en haut à droite, après le passage souligné. Après le passage souligné. Or, pour beaucoup d'activités concourant à l'intérêt du corps commun, un certain mécanisme est nécessaire qui impose à quelques-uns de ses membres un comportement purement passif. Bon. Donc, voilà ce qu'il en est de l'usage privé de la raison. Hein, vous comprenez pourquoi il est nécessaire. Parce que si chacun se mettait à raisonner, à perdre de vue au-delà de ce que demande sa fonction, on n'y arriverait pas, la société ne fonctionnerait pas. À l'inverse, tout citoyen peut, en tant qu'homme, mettre en cause la stratégie adoptée par les généraux de son pays, y compris l'officier dont nous parlons. Mais là, il ne s'exprime plus en tant qu'officier. Il s'exprime en tant qu'homme qui réfléchit sur la bonne stratégie qui doit être utilisée pour faire la guerre. Bon. En s'exprimant de cette manière, cet officier ne fait pas un usage privé de sa raison, hein. Il s'exprime en tant qu'il est un homme qui dispose comme tout homme de la raison, c'est-à-dire entend qu'il est par nature capable de juger et de savoir. Donc il peut, par exemple, s'exprimer de cette manière dans un article de journal. Et alors, il fait ce que Kant appelle un usage public de sa raison. Et regardez la phrase que j'ai soulignée en haut à droite. J'entends par usage public qu'on fait de sa propre raison celui qu'en fait quelqu'un comme savant devant le public entier, qu'est le monde des lecteurs. Je reprends, hein. J'entends par usage public qu'on fait de sa propre raison celui qu'en fait quelqu'un comme savant devant le public entier, qu'est le monde des lecteurs. Alors ici, le terme de savant, ne l'entendez pas au sens où nous l'entendons ordinairement. Le savant, c'est celui qui, par ses connaissances, par son raisonnement, s'exprime publiquement et contribue au progrès des Lumières. À partir du moment où vous écrivez un article avec des arguments, etc., vous vous exprimez en savant, sans forcément être un grand expert. Vous voyez ? Voilà comment il faut l'entendre. Mais vous raisonnez. Vous raisonnez. Ce qui est important, c'est de raisonner. C'est de déployer des arguments pour justifier une position. Vous voyez, c'est ça qui est important. Et de la faire connaître. Donc, ici, l'usage public de la raison ne doit avoir aucune limite. Tout homme peut s'exprimer publiquement. Tout homme peut exprimer publiquement une critique des institutions ou des lois de son pays. Il peut publiquement demander des améliorations, des changements, des réformes. Mais en tant qu'il est assigné à une tâche, en tant qu'il remplit une fonction, en tant qu'il fait un usage privé de sa raison, là, non, il a un devoir de réserve. C'est-à-dire que quand vous êtes fonctionnaire des impôts, là, puisque je prends cet exemple, fonctionnaire des finances, vous avez le droit de vous exprimer en tant que citoyen, en tant qu'homme, pour dire tout le mal que vous pensez du système des impôts en France. Vous pouvez dire que c'est un système injuste, ça vous avez le droit, et personne ne peut vous l'empêcher. Par contre, en tant que vous exercez votre fonction, vous avez une obligation de réserve, vous devez faire un usage privé de la raison, donc un usage limité dans le cadre de cette fonction. Voilà comment, effectivement, il faut l'entendre. Donc, si je termine, vous voyez que il faut donc, pour Kant, distinguer les domaines. Le domaine de la liberté de penser, que j'exerce comme homme, dans lequel il ne va pas y avoir de limite, dans lequel la liberté doit être totale. Et puis, donc, un domaine où les hommes n'obéissent pas à une autorité supérieure, à une autorité extérieure. Il n'y a comme seule autorité que la raison. Et puis, de l'autre côté, vous avez le domaine politique et civil, le domaine de l'obéissance civile qui est requise dans une société, un État, et sans laquelle cette société ne peut pas fonctionner. Et évidemment, ce domaine suppose une autorité extérieure, un gouvernement, des lois, une hiérarchie. Et chacun y exerce une fonction particulière. Hein. Chacun est un rouage du mécanisme social, si vous voulez. Donc, vous voyez, la distinction de ces deux domaines est très importante, et c'est ce que reconnaît Kant au despote éclairé, Frédéric, c'est d'avoir justement distingué ces deux domaines, et en distinguant ces deux domaines, il a rendu possible l'accès aux Lumières, vous voyez. Et donc, cette distinction des deux domaines montre qu'il n'y a aucune incompatibilité entre la liberté de penser et puis l'obéissance, civile. Pour obéir, il n'est pas nécessaire de se taire et de renoncer à penser, en tant qu'homme et citoyen. Critiquer les lois et les institutions de son pays, critiquer les autorités même de son pays, ce n'est pas désobéir. Ce n'est pas désobéir. La critique n'implique pas, voyez, nécessairement la désobéissance, c'est autre chose. Donc, par contre, il y a despotisme, et despotisme brut, despotisme aveugle, lorsqu'il y a confusion des domaines, quand le pouvoir censure, quand le pouvoir sanctionne des opinions qui lui déplaisent, et quand il criminalise une opinion le critique, par exemple. Voilà, là, évidemment, on a affaire à de l'obscurantisme. Là, on est dans une politique qui est hostile, effectivement, à l'émancipation de la pensée. Voilà ce que je voulais vous présenter ce soir en lisant ce texte. Alors, c'est un petit peu laborieux, mais bon, j'espère que vous avez compris pour l'essentiel. Voilà, êtes-vous à vos questions. Je ne vais pas tout expliquer, parce que sinon on serait... Oui ?
Les échanges publics, les Grecs faisaient déjà ça, non ?
Place
publique, par exemple.
À la place publique, ah oui, alors attendez. La seule différence, c'est que les Grecs, là, il y a une importance de l'écrit. Le public, c'est un public qui lit, vous avez remarqué ?
Oui.
Et on s'adresse à lui surtout par des écrits. Et beaucoup moins par la parole. Pourquoi l'écrit a-t-il une telle importance ? Parce que quand on écrit, on ne voit pas en face son interlocuteur. On ne prévoit pas ses réactions. On n'utilise pas la rhétorique. On ne cherche pas à le persuader. On ne cherche pas à faire pression sur lui. On ne cherche pas, si vous voulez, à l'émouvoir. Parce que quand on écrit, vous voyez, au fond, on ne voit pas en face son interlocuteur. Au fond, on s'adresse à la raison de chaque homme. C'est-à-dire que l'écriture permet un exercice raisonné, beaucoup plus... Alors, il peut y avoir de la rhétorique aussi dans l'écrit, mais l'écrit, vous voyez, est beaucoup plus favorable à l'expression de la raison. En ce sens-là qu'il est privilégié. Chez les Grecs, il n'y avait pas d'écrit, c'était une parole publique, et la rhétorique jouait un rôle très important. Il fallait... la question, c'était pas... vous savez bien, Platon critique très férocement les sophistes, les rhéteurs, parce que ce sont des gens qui se moquent de la vérité, qui cherchent effectivement à séduire un auditoire, à émouvoir, pour emporter l'adhésion. C'est-à-dire que la place publique... Alors, c'est la critique que fait Platon de la démocratie. La démocratie tourne souvent à la démagogie. Alors, évidemment, voilà une différence, si vous voulez. C'est-à-dire que la démocratie n'est pas forcément un régime politique qui favorise toujours la liberté de penser. Dans le sens où il peut y avoir effectivement une... des passions qui effectivement s'expriment de manière à emporter en quelque sorte la conviction d'un auditoire. Vous voyez ? Donc c'est en ce sens-là. Il y a chez Kant effectivement l'idée que la démocratie, au sens où elle est ainsi une expression directe du peuple, elle est effectivement... quelque chose qui n'est pas forcément propice à l'éveil et au développement de la pensée. Ça fait qu'il y a une méfiance de sa part à ce sujet. Comme Montesquieu. Oui. Bon, et puis, non, mais par contre, l'idée, on peut très bien ne pas être... on peut être démocrate et admettre que la démocratie doit être réglée par la recherche de la vérité, sinon si elle est uniquement démocratie d'opinion, finalement elle risque de mal tourner. Elle risque d'être le régime où ceux qui l'emporteront, ceux qui triompheront, ce seront ceux qui sauront le mieux parler, ce sont les démagogues. Donc effectivement, c'est important que les hommes apprennent à raisonner et exercent leur réflexion indépendamment de la pression de la majorité, vous voyez, de ce point de vue-là. Oui ?
On a l'impression qu'actuellement l'obscurantisme revient. Est-ce que c'est pas lié au fait à une diminution de l'écrit vis-à-vis de l'hégémonie de l'audiovisuel,
Alors là, il y aurait beaucoup à dire. Hein. Ça a changé.
Vous avez qu'à dire. Alors, non, c'est pour revenir à Kant qui parle de l'écrit comme le
mot. Ben, ça dépend. L'usage de la parole n'est pas forcément obscurantiste. Il peut y avoir une parole intelligente, construite. Il peut y avoir des vraies discussions avec des règles. Quand vous donnez la parole à des gens uniquement pour 30 secondes et qu'il faut faire des punchlines, c'est pas propice effectivement à l'éveil de la pensée. Hein. Ce qui compte, c'est d'être percutant, c'est tout. Oui. Et puis, bon, puis on peut aussi avoir affaire à des médias qui sont tous à peu près dans le même moule. Avec les mêmes. Qui n'est pas une véritable diversité. Ouais. Donc ça pose un problème. Bon, ça, c'est le problème des médias. Hein.
Ouais. Oui. Non, mais on a comme l'impression que les jeunes lisent moins d'écrits.
Ah oui, ça. Ben, Jean, vous avez.
C'est comme l'écrit.
Ça, tu l'es. Tu l'es de ce compte. C'est sûr que c'est difficile de. Bon, oui, alors il y aurait beaucoup à dire sur cette question-là. Effectivement, l'écrit est très important pour la formation de la pensée. Et ce qui est vrai, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce qui est très dangereux, ce sont toutes les technologies modernes qui risquent d'inciter finalement les individus à ne plus faire d'efforts. Et alors là, pour la manipulation, c'est pas mal. Ceux qui maîtriseront les plateformes, ceux qui auront les plateformes, ils feront un peu la pluie et le beau temps. Dire ça, c'est pas être technophobe, hein. c'est pas forcément dire c'est pas bien, faut pas de technique moderne. Non, c'est pas ça. C'est simplement vrai qu'il y a un usage pervers des techniques qui est redoutable, et genre, surtout des techniques de ce type-là. Hein. Déjà, les professeurs se rendent bien compte qu'il y a des élèves qui ne font plus rien. Ils utilisent l'intelligence artificielle générative. Là. Ils ne font plus rien. Et ben, on ne pouvait pas faire la fouille au corps, les contrôler, etc. Quand on ne fait plus l'effort de composer une réflexion, ben, on s'étiole. Hein. À un moment donné, ça a des effets. Là, il y a un problème redoutable. Hein. Redoutable. Dans tous les domaines. Hein. Et c'est vrai que. Bah oui.
Une atrophie cérébrale.
Ah, forcément. Il y a une atrophie, c'est évident. C'est évident. C'est évident quand on a pris l'habitude à se laisser guider par ce genre de machine, à la consulter en permanence pour obtenir des réponses et des directives sur sa façon de vivre, on se met dans une sorte de servitude, oui, absolument. Oui.
Dans la liberté d'expression, n'y a-t-il pas une ligne rouge ? On veut dire, est-ce que proférer des propos, offensants à l'égard d'une certaine communauté, je pense à l'antisémitisme par exemple, ou des propos offensants à propos d'une religion ?
Alors,
j'ai le droit de dire ce que je veux,
oui. Alors, là, c'est. Si vous voulez, quand. Avant de vous répondre, je dirais que la réflexion de Kant, c'est pas celle de Montesquieu, vous avez pu voir. Hein. C'est-à-dire qu'il ne s'interroge pas sur les limites de l'expression. Est-ce qu'il faut l'incriminer quand elle devient blessante ou pas ? Ce n'est pas son problème. Lui, sa question, c'est est-ce que la liberté d'expression permet à la pensée de se développer ? C'est ça son problème. Hein ? Bon, maintenant, je vous réponds. Oui, bien sûr qu'il y a des limites à la liberté d'expression, qui sont d'ailleurs posées par la loi. Vous ne pouvez pas tenir publiquement des propos racistes. C'est clair, c'est interdit. Bon, vous pouvez pas appeler au meurtre. Vous pouvez pas faire l'apologie du crime. Donc il y a des limites à l'expression. Alors maintenant, l'exemple que vous donnez, est-ce que on avait déjà un peu évoqué cet exemple la dernière fois. Est-ce que il n'y a pas des propos répréhensibles quand on s'en prend à une religion ou à ses croyants? Alors, à une religion, c'est pas des personnes. Normalement, il n'y a pas de délit d'opinion quand on critique une opinion. Les religions, enfin, dans le cadre d'un État laïque, les religions sont une affaire privée, sont du domaine de l'opinion. Donc, on a le droit de critiquer une religion. On a le droit de dire qu'on en pense du mal. La question qui se pose, par contre, c'est concernant les croyants, les hommes, les personnes. Là, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on fait la distinction entre les opinions et les personnes. Donc, quand on s'en prend aux personnes et qu'on les attaque violemment, là, oui, ça tombe sous le coup de la loi. Voilà. C'est que le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'on fasse de confusion entre l'opinion et la personne. Alors, si vous comprenez qu'il y a parfois des critiques, enfin des procès qui sont discutables, parce qu'on incrimine quelqu'un pour l'opinion qu'il tient sur telle politique ou sur, je sais pas, telle religion, en disant que ce qu'il dit est une offense aux personnes. Non, ce n'est pas une offense aux personnes. C'est une critique, peut-être assez violente, contre une religion ou la politique d'un État, ou je ne sais quoi, mais ce n'est pas une attaque contre les personnes. Il y a une attaque contre les personnes quand on les vise en tant que personne, quand on exprime à leur égard des propos ouvertement discriminatoires et racistes. Voilà, quand on dit qu'elles ne méritent pas de vivre ou qu'elles sont des sous-hommes ou je ne sais quoi. Enfin, ça tombe sous le coup de la loi. Là, il y a vraiment une attaque caractérisée contre des personnes. Voilà. Mais les opinions, par contre, on peut s'en prendre de manière qui ne va pas me plaire à une opinion qui m'est chère. La personne qui critique violemment mon opinion a le droit. Tant qu'elle ne s'en prend pas à ma personne, tant que, par exemple, elle ne m'humilie pas publiquement ou elle ne tient pas sur moi des propos diffamatoires ou racistes. Vous voyez ? Voilà. Donc la frontière, elle est entre les opinions et les personnes. Et le problème, c'est que la confusion est souvent faite entre les deux.
Je me demande si la raison... Je me demande si la religion catholique, qui veut éviter tout questionnement, n'a pas mis la foi comme lumière.
La foi, pendant longtemps, elle était la foi en la révélation. La révélation, c'était la lumière surnaturelle,
voilà,
qui vient de Dieu,
voilà,
qui est censée venir de... Mais ça, avant même que les lumières, en tant que mouvement, au XVIIIe siècle se développent, on pensait, effectivement... la révélation comme la lumière surnaturelle qui vient de Dieu. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, le croyant, il est éclairé par une lumière qui n'est pas naturelle. La lumière naturelle, c'est la raison, mais par une lumière surnaturelle qui implique effectivement un au-delà. Donc là, vous voyez, l'idée de lumière a toujours été associée à l'idée de vérité, si vous voulez. Bon, par contre, pour les philosophes des Lumières, ce qu'ils mettent en avant, c'est la raison. La raison étant cette faculté grâce à laquelle on va pouvoir s'éclairer.
Il s'oppose un peu à la religion.
Alors, il ne s'oppose pas à la religion, il s'oppose au cléricalisme.
Ah ouais.
Parce que beaucoup sont religieux.
Ah ouais.
Mais ils ont, par contre, ils adressent une critique assez violente aux religions établies, notamment au catholicisme de l'époque. Où effectivement, là, il y a un clergé extrêmement puissant qui veut tenir en laisse ses ouailles. Hein. Là, effectivement, les philosophes des Lumières, dans leur grande majorité, rares sont ces philosophes qui sont athées, ils sont peu nombreux à être athées, mais beaucoup, défendent l'idée d'une religion naturelle. C'est-à-dire une religion qui se passe des intermédiaires entre Dieu et le croyant. C'est-à-dire qu'il critique l'institution ecclésiastique, surtout. Et il l'accuse, au fond, d'abuser, en quelque sorte, de la crédulité des hommes. Voilà, ça c'est la critique, bon, je simplifie hein, le propos, mais vous voyez, c'est des critiques qui sont surtout adressées contre le clergé, contre ce qu'on appelle le cléricalisme, hein, le pouvoir des clercs, qui d'ailleurs ne veulent pas que les hommes puissent s'émanciper. Hein. Ils exercent un contrôle.
Est-ce qu'il y a une place chez Kant pour ce qu'on pourrait appeler une désobéissance civile?
Non.
C'est-à-dire
non.
Si on donne un ordre criminel, stupide ou délirant, c'est vrai que dans l'armée prussienne, ça ne doit pas être évident de désobéir. Et pourtant, ça serait un devoir.
Je vais répondre de façon schématique. Du point de vue juridique, il est contre le droit de résistance à l'oppression. C'est-à-dire que pour lui, effectivement, il est important, mais bon, je vais mal le développer parce qu'il faudrait du temps pour le faire. Il considère qu'effectivement, il est de notre devoir d'obéir à la loi, même si nous la pensons injuste. Parce qu'il est important qu'il y ait une société. Ben, il est réformiste, si vous voulez. Il pense que c'est par la critique que les citoyens peuvent contribuer à changer les institutions. Il est contre l'idée, effectivement, du despotisme. Il est partisan d'une constitution républicaine. Hein, bon. Mais, alors, par contre, quand vous me parlez des soldats qui exécutent des ordres qui peuvent leur paraître absurdes à la guerre, je dirais que je vais vous dire une chose, c'est que les guerres de cette époque étaient certainement moins épouvantables que celles d'aujourd'hui. Hein. C'était beaucoup moins barbare. C'est vrai, je pense. Hein, au XVIIIe siècle, il y avait des règles, des conventions. Bon, je ne dis pas que c'était parfait, hein, mais en tout cas, on ne massacrait pas les civils. Alors, je ne dis pas que les soldats, quand ils campaient, ils n'abusaient pas de leur situation. Hein. Les viols et les vols, il y en avait. Mais en principe, on ne tuait pas les civils. Il y avait des conventions. Bon. Alors maintenant, le problème que vous posez, c'est un problème d'ordre moral. Ça, c'est autre chose. Sur le plan juridique, la question de savoir est-ce qu'on désobéit, est-ce qu'on a le droit de désobéir, est-ce que la désobéissance civile, c'est un problème juridique et politique, hein, essentiellement. Non, pour Kant, non. Non, il a là-dessus, effectivement. Alors, par contre, il y a des situations limites où, effectivement, quand un État devient despotique et violent, de toute façon, on ne peut même plus dire qu'il y a un ordre civil. Donc, à la violence, on répond par la violence. Hein. Mais quand il y a un ordre juridique, politique, établi avec des institutions, pour Kant, non.
Mais ça ne va pas sans une forte frustration, c'est-à-dire que si je peux penser ce que je veux, mais qu'il faut que je fasse ce que je ne veux surtout pas faire. Ah bah,
c'est pour ça qu'il est. Il est partisan de. Enfin, il trouve que la solution du despotisme éclairé, c'est pas une solution géniale, mais c'est une solution de compromis, mais au moins, elle permet aux hommes de s'éclairer, d'entrer dans des discussions critiques, de contribuer par là, peut-être, à élaborer des projets de réforme pour transformer la société. Vous voyez, c'est comme ça qu'il envisage
les choses.
C'est-à-dire que pour lui, on dirait aujourd'hui que c'est un réformiste. C'est-à-dire qu'il ne pense pas qu'on puisse en changer et améliorer le monde et les sociétés par des révolutions. Par des transformations radicales. Ça, il ne le pense pas. Il pense que les choses se font de manière progressive et elles se font plutôt par le haut. Parce qu'effectivement, vous avez compris que pour lui, le public, ce n'est pas le peuple. Hein. Et la plus grande partie des hommes, du peuple, les gueux, bah, ils ne sont pas éclairés. Mais attendez, il faut être clair. C'est-à-dire qu'il pense sincèrement qu'il faut aller vers aussi un élargissement du public, vers le peuple. Plus les hommes seront éclairés et instruits, et plus ils pourront contribuer à améliorer le monde dans lequel ils vivent. Enfin, c'est comme ça qu'il envisage les choses. Alors, ça, cette réflexion a ses limites, hein, bien sûr, mais oui. Non, il n'envisage pas ça, là, lui. Il ne peut même pas envisager qu'il puisse y avoir une école possible. Dans les sociétés existantes. Non pas que cette idée d'école lui soit étrangère, hein, dans les conditions qui sont celles des sociétés telles qu'elles sont, avec les princes tels qu'ils sont, c'est très bien que les princes, ils ne pensent finalement qu'à leur propre gloire, qu'à leur propre puissance, et s'ils faisaient une école, ce serait uniquement pour, en tout cas, former des individus pour devenir des instruments de leur politique, pas pour en faire des esprits éclairés. Là, c'est clair. Donc là, il y a un grand scepticisme de Kant par rapport à ça. C'est-à-dire que pour qu'effectivement une école, telle que nous l'entendons, une école qui instruit, qui éclaire, soit possible, il faut qu'une... On ne peut pas avoir ça dans n'importe quelle société. Il faut que ce soit une république et une vraie république. Une vraie république. Voilà. Pas facile. Voilà les choses telles qu'elles sont. Est-ce qu'on peut arrêter là? Vous avez une question encore? Et je vous dis, au 5 juin, l'Assemblée générale.